Chapitre 3. L'apéritif chez la marquise. Les mariages mixtes ne sont pas tous des unions modèles. Ce ne fut pas un mariage d'inclination que fit Jacques d'Iscamp. Il approchait de la trentaine sans avoir pu décider encore des tripots ou des hippodromes où il est le plus aisé de perdre son argent. De moins en avait-il avec ardeur embrassé l'occasion sur toutes les plaines vertes qui s'étaient offertes à ses yeux, pour ne rien dire de quelques-unes de ses contemporaines où il s'était plus coûteusement. Aujourd'hui, il songeait, la bouche amère, qu'enfin il était à la côte lui aussi. Côte fâcheuse où tant de ses amis avaient déjà fait naufrage, côte inhospitalière où parmi le roc sous des huttes enfumées, rampe et se nourrissent huileusement de poissons des gérants de cercles, quelques notaires coriaces et la puante tribu des fournisseurs au sourire mince. L'idée du mariage flottait autour de Jacques. « Je ne puis pourtant plus taper maman, » pensait-il. De fait, la marquise d'Iscamp était bien capable de se ruiner toute seule et sans qu'on l'y aidât. Jusqu'ici, le monceau de sa fortune avait résisté. Mais il semblait enfin qu'il s'entamât secrètement. L'on y pouvait deviner des lézardes, comme dans ces blocs de glace au dégel, qui frissonnent à la base longtemps avant de s'abîmer dans les eaux. Mais les embarras où elle s'était trouvée, sans doute ayant depuis peu vendu des terres, elle n'avait rien manqué. Frivole, nonchalante, d'une naïveté un peu hautaine, il ne semblait pas qu'aucun chagrin pût altérer la bienveillance dont elle regardait la vie. Et son plus grave caprice aujourd'hui était de jouer à la douairière, se coiffant de dentelle et réclamant des petits-enfants à tout prix. Le prix lui aurait paru peut-être un peu haut si elle avait pu concevoir que l'amour n'entrait pour rien et au contraire dans la recherche que fit Jacques de la belle mademoiselle Bloch-Rosambuisson et qu'il y prétendait épouser autre chose qu'une fortune d'ailleurs mal acquise. Car M. Bloch en avait autrefois gagné le noyau en fournissant à l'armée russe des riz dont l'Empire des Indes lui-même aurait refusé de nourrir ses administrés en temps de famine. Et même cela lui avait valu, au front de ses troupes, qu'il avait failli affamer, une promenade du matin en pyjama et dont un knout rythmait l'allure. Paris, toujours ouvert aux martyrs de la politique, fit le meilleur accueil à ce fournisseur battu comme à ses économies. Mais parmi les Français qui montrèrent le plus de cette hospitalité qui est une de nos grâces nationales, notre homme distingua surtout M. Rosenbusch, dit Rosambuisson, jadis son coreligionnaire, et récemment converti au protestantisme par un groupe de libres penseurs. Il poussa la sympathie jusqu'à en épouser la fille, ayant du reste, peu de temps après son arrivée, trouvé lui aussi son chemin de Genève. Et issu de tout cela, Georgette Bloch-Rosambuisson faisait aujourd'hui une chrétienne très sortable, qui dédaignait sans doute le Talmud de Babylone, ainsi que les crimes rituels, n'ayant gardé de ses ancêtres que l'habitude atténuée, mais fâcheuse, de se gratter hors de propos. Elle était enfin d'une beauté extrême, comme d'une extrême impudence. Ce mariage, dès qu'elle y songea, lui plut. Très fine et parisienne, si l'on française, elle égrenait autour d'elle, depuis son enfance, tout un chapelet de parents et d'amis qui la dégoûtaient un peu. Il lui parut qu'une couronne de marquise, un château Poitevin, un vieil hôtel rue de Bellechasse, devait, avec Dieu, suffire à la garder les siens. Il n'était pas désagréable d'acheter le marquis avec, quand c'était comme celui-ci un beau gars, un peu massif, mais d'une vigueur élégante. Elle sentait bien qu'il ne l'aimait pas, qu'il en était très loin, au-delà même de l'indifférence. Elle était assez pénétrante pour démêler sous sa politesse quelque chose qui ressemblait plutôt à de l'aversion. Mais ne pouvait-elle pas le conquérir plus tard? Son imagination, déjà avertie, lui faisait voir, dans un corps aussi magnifiquement ordonné que le sien, pour l'œuvre de la chair, les conditions secrètes d'un plaisir assez puissant pour faire oublier le bonheur. Il y avait un motif moins pur encore au projet de Georgette, mais qui en dit trop long sur certaines vierges modernes pour ne pas dévoiler. C'est qu'une de ses amies, plus âgée qu'elle et mariée, ayant pris pendant quelques mois Jacques pour amant, avait eu l'indiscrétion inusitée de venir le conter à la jeune fille. Peu à peu, elle avait fini par lui décrire tout le particulier de cette liaison, avec des détails tels que Georgette ne s'y plaisait pas toujours sans rougir. Il lui en resta du goût pour l'homme que sa pensée avait si souvent dévêtu, et comme des droits sur cette chair qu'elle n'eût pas mieux connue pour l'avoir pressée en tous sens de ses propres mains. Quand Jacques se fut enfin décidé à sauter le pas, il ne resta plus qu'une difficulté, celle de religion, et qui se trouva légère. Georgette, en effet, n'hésita pas à pousser jusqu'au bout la conversion de sa famille, en sorte que Madame d'Iscan n'opposa plus de résistance. D'ailleurs, pour le peu qu'elle l'avait vu, elle aimait presque Georgette et se réjouissait que cette âme de prix revînt au giron de Rome. Jacques, d'autre part, lui avait juré que son bonheur dépendait de ce mariage. Et peut-être firent-ils bien de ne pas chercher à s'entendre trop exactement sur le sens du mot « bonheur ».« Il me suffit, dit-elle, non sans dignité, d'être sûr que tu l'as choisi droite, au physique comme au moral. » Jacques songea avec un peu de mélancolie à la devise qui était la sienne, « droit », et qui fut donnée par Saint-Louis à Hugues Poitevin d'Iscan, guéri par miracle après avoir été laissé pour mort dans les sables de la Mansour. Interrogé pourquoi elle s'était mis si avant parmi les Sarrasins sans retourner, il répondit qu'on ne lui avait pas enseigné à faire virer son cheval. « Moi, c'est les autos, » pensa Jacques. Son mariage, décidément, le laissait sans enthousiasme. Pour comble, il prévoyait, côté beau-père, des marchandages répugnants. L'homme l'était déjà, avec sa mine de chien qui se rappelle le fouet. Car il n'appartenait pas à la variété triomphante des blocs, ayant l'air d'un cambrioleur qui vient de tomber sur un coffre-fort incrochetable. C'était une obsession pour Jacques. Mais aussitôt qu'il le voyait, une comparaison jadis entendue lui revenait en tête. « Nous avons été volés, comme disaient les trois juifs retour d'Écosse, et dans ce milieu qui allait être un peu le sien, où il se surprenait à compter les branches des chandeliers, sa fiancée lui semblait une chose sordide et magnifique, inventée en haine de lui par Rembrandt van Rym. » Il y avait autre chose où Jacques se trouva plus intéressé qu'il ne l'aurait cru. C'était sa maîtresse Anaïs Dunois, plus connue sous le pseudonyme de Naine, et qui possédait en titre, depuis que la mort de Bélesta, l'homme des hauts fourneaux, avait affranchi cette belle personne d'une servitude d'ailleurs assez légère et adoucie encore par des honoraires relevés. Et Jacques s'était attelé courageusement à cette succession. Il avait tant de choses à pardonner à Nan qu'il ne savait plus rien lui refuser, et cela contribua à le ruiner, comme aussi à le marier plus vite. Car, juste retour, la courtisane, qui désunit certains ménages, en prépare d'autres, par l'obligation où tombent les célibataires qu'elle a mis à sac de rechercher dans un accouplement légitime les ressources qui commencent à leur manquer. Mais Jacques souffrit à la pensée qu'il embrasserait plus ses membres souples et minces que dans le petit hôtel de silence où seul le rire faux de Nan perçait les tentures, sa chair d'ambre rayonnerait pour d'autres sous les veilleuses. Et soudain il sentit de quel poids pesait sur son cœur la menue idole qu'il avait polie et parée de ses propres mains. Car il fallait rompre. Plusieurs siècles de convenances écrasaient Jacques de leur code héréditaire. Il fallait rompre, et sans l'espoir qu'on pût renouer plus tard. Car il savait aussi quel maladroit sacrilège c'est de reprendre une femme après un long intervalle, et que le vin de Jurançon qu'on laisse après en avoir bu s'éventer dans la bouteille n'est plus bientôt qu'une topaze insipide. Jacques recula pourtant jusqu'à ses fiançailles, même un peu au-delà. Déjà le mariage, sans avoir été annoncé, était connu un peu partout. Et il s'étonnait que Nan n'en fût pas encore averti. Rien que sa mine à lui et quelques précautions toutes nouvelles qu'il prit pour qu'on ne les vît pas trop publiquement ensemble auraient dû la mettre en éveil. Mais il n'y parut rien, et quand Jacques enfin ne put pas reculer davantage, il n'osa affronter la scène prévue de désespoir. Peut-être eut-il pour plus encore que Nan ne lui rit au nez en disant « Je le savais ». Bref, il prit le parti d'écrire. La lettre était joviale, trop joviale. Il y avait aussi le souvenir d'usage, mais assez gros pour consoler le plus solide désespoir de veuve. Jacques avait même éprouvé quelques joies en donnant par avance cette direction imprévue à l'argent bloc. Ayant lu la lettre de Jacques, qui décidément était maladroite, Nan, presque frénétique, cria, pleura et cassa de la poterie. Peu s'en fallut même qu'elle déchirât le chèque propitiatoire où son nom était accompagné d'un gros chiffre. Elle n'en fit rien pourtant à la réflexion. Ce courroux n'était pas raisonnable. Il y avait longtemps que Nan connaissait les desseins de son amant sans qu'elle s'en fût mise beaucoup en peine. Mais elle avait préparé pour la rupture tout un ensemble de pleurs, de langueurs, de pathétiques colères. Mais elle avait prévu la suprême étreinte, les caresses qu'on se donne encore une fois, qu'on ne se donnera jamais plus, et qui, d'être les dernières, semblent profondes comme la mort. Et voici que toute cette tragique comédie ne serait pas jouée. Nan, après avoir écouté les pas de Jacques décroître à travers la porte, ne retomberait pas brisée sur un sofa de couleur assorti à son peignoir. Elle ne dirait pas d'une voix touchante « Je connais les devoirs que votre monde vous impose. » Elle ne dirait rien. Elle ne ferait rien ou bien ce serait toute seule. Jacques renvoyait son rôle. De tout cela, il lui fallait une vengeance, sinon à la Corse, au moins à la Parisienne. « Que pourrais-je bien faire, songea-t-elle, qui lui serait très désagréable ?» Et l'idée la plus saugrenue germa dans cette cervelle mousseuse. 2 heures après, vêtue le plus sérieusement qu'elle avait su, elle descendait de voiture une belle chasse devant l'hôtel Discord. Jusqu'au vestibule, tout alla bien. Et comme c'était justement le jour que Madame Discord recevait, elle allait être introduite tout de go, quand le hasard, qui avait voulu rire, fut déjoué dans ses calculs par le passage de Firmin, honnête domestique vieilli dans la maison et tel qu'on n'en rencontrerait pas même dans les romans. Cet homme blanchi par l'âge, mais à qui on ne la faisait pas, s'avança le plus vite qu'il put et dit poliment à Nan que Madame la Marquise ne recevait pas. « Eh bien, voulez-vous lui remettre ceci ?» Et elle lui tendit une carte où elle avait d'avance écrit ces mots qu'elle jugeait propres à émouvoir. « C'est pour le bonheur de Jacques. » La carte portait d'ailleurs, sous un tortille, « Damoiselle Anaïs Dunois ». Et Firmin, l'ayant prise sans paraître la regarder, dit à Nan le plus gravement du monde « Mademoiselle la baronne voudra bien attendre un instant. Je vais m'assurer si Madame la marquise est encore à l'hôtel. » Entrée au salon, sous prétexte d'arranger le feu, Firmin commença de faire à Madame Discord quelques-uns de ces signes discrets dont le destinataire reste en général seul à ne s'en apercevoir point. Ceux de Firmin devinrent plus énergiques, il trépigna doucement. « Mais qu'a donc ce vieux ?» se disaient les visiteurs. « Quelqu'un aurait-il chapardé la pince à sucre ?» Enfin, Madame Discamps, ayant regardé du côté du feu, Firmin lui fit une si effroyable grimace qu'elle en fit toute saisie et détourna les yeux sans comprendre. Lui, alors, ayant empoigné les pincettes, les précipita non sans vacarme sur la pelle et avec de nouvelles grimaces se mit à balancer la carte de Nan vers la marquise qui, ne tardant pas à se douter de quelque chose, passa dans un petit salon où il la suivit. Mise au courant et fort épouvantée, car elle savait le nom de Nan et que cette fille passait pour bien tenir son fils, « Firmin, dit-elle, que faut-il faire? Si je ne la reçois pas, elle va faire du scandale. On ne peut pourtant pas la faire entrer au salon, dans mon oratoire non plus, mon Dieu !» « Si j'étais madame la marquise, répondit Firmin, et cette hypothèse paraissait devoir être écartée, je la mettrais dans ma chambre à coucher. Personne n'entendrait rien, comme par exemple dans la salle à manger, et on pourrait dire après que c'était une institutrice en commission. « Eh bien, Firmin, décida la marquise avec un désespoir languissant, faites-la monter, j'arrive tout de suite. Surtout n'en dites rien, monsieur le marquis, s'il rentrait. Elle a peut-être du vitriol. » Dans la haute chambre empire, qui depuis trois générations n'avait presque point changé sans doute, Nan se tenait debout, un peu intimidée tout de même, et consciente de n'être pas absolument à sa place. Autour d'elle, des objets durs et magnifiques restaient hostiles. Des portraits aussi, pendus aux murailles, et en particulier le père de Jacques, feu le général marquis d'Iscampe, par Winterhalter, qui semblait lui darder une indignation militaire. Madame d'Iscampe entra. Elle était grande, paresseuse de gestes, avec des yeux étonnés et doux. Tout de suite, elle parut aussi intimidée que Nan, et elle restait debout, toutes deux, qui se regardaient en silence. Enfin, la marquise dit « Qu'est-ce qui me vaut, madame, ce plaisir inattendu ?» Nan posa alors sur une table un ridicule assez gonflé. « Voici, dit-elle, les choses, les lettres, enfin, et puis d'autres bibelots qui sont à Jacques des boutons de chemise. » Et elle éclata en sanglots. C'était trop émouvant aussi, cette grande chambre, et cette mère si douce, si noble, et ce vieux militaire par Winterhalter. Déjà, elle avait oublié les choses fines, désagréables, éloquentes, si bien préparées. Car elle avait décidé que cette grande dame prendrait quelque chose pour son rhume, qu'elle s'entendrait dire, entre autres galanteries, que son fils était le dernier des manants, vlan, et que, lorsque perdant la tête, elle offrirait une grosse somme d'argent à Nan pour l'apaiser, celle-ci répondrait en propres termes « Non, madame la marquise, ce qui m'a fâché contre Jacques, ce n'est pas qu'il se choisisse une épouse, mais c'est le procédé. Et vous auriez beau m'offrir toute votre fortune, je ne suis pas encore assez croulante pour me faire entretenir par les familles de mes anciens amis. » Mais voici que la mère ne se prêtait pas plus que ne l'avait fait le fils aux scénarios imaginés par Nan. Et Nan elle-même, depuis un moment, avait changé de personnage, elle se sentait toute chose. Appuyée à une table comme pour ne pas tomber, et tandis que des pleurs inondaient ses joues qu'elle devinait pâlissantes, elle songea avec satisfaction qu'elle devait paraître tout près de s'évanouir. « Calmez-vous, mon enfant, lui dit la marquise. Vous paraissez souffrir. Voulez-vous vous asseoir ?» Nan s'écroula sur une chaise. « Quelque chose pour vous remettre de l'eau de mélisse, voulez-vous, ou un peu de grenache? J'en ai justement ici. » Elle posa un verre à côté de Nan, l'emplit. N'était-ce pas à cause de son fils, en somme, que cette malheureuse se désespérait? Elle s'assit elle-même à un peu de distance. Nan but, sembla se calmer. Quelques larmes encore coulaient dans son verre. Touchante et ridicule ainsi, elle parut moins belle à Madame Discamp, qui ne se sentait plus jalouse. Et peut-être même eut-elle la fugitive pensée qu'elles étaient là deux que son fils allait abandonner et trahir pour une étrangère. Tout à coup, Nan éclata en nouveaux sanglots, la face dans les mains. « Voyons, voyons, lui dit Madame Discord, il ne faut point pleurer comme cela. » On vit entre les doigts écartés de Nan ses beaux yeux brillants de larmes. « Ah, madame, implora-t-elle enfin, c'est que vous soyez si bonne pour moi qui me fait pleurer, et de penser, oh, si vous vouliez l'être encore plus, oui, si je pouvais croire que vous ne méprisiez pas tout à fait, au lieu de me faire boire comme ça toute seule, comme un pauvre, vous auriez honte. » Et Nan retomba en gémissement. Madame Discord eut d'abord comme un haut-le-corps, mais elle avait tant fait, un peu plus, un peu moins. Elle prit donc un second verre et se versa du grenache, mais elle n'alla pas jusqu'à trinquer. Paris, dit Paul Féval dans sa préface à la seconde édition des Habits Noirs, Paris, ville de boue et de perles où le sang est cimenté de larmes, où l'on ne sait plus quelquefois si les duchesses et les courtisans ne sortent pas du même lit. L'Ermite, 1855, page 8. On causa, et Nan, enfin calmée, avoua qu'elle était venue pour faire une scène et qu'elle n'avait pas pu, qu'elle avait été impressionnée. Les yeux candides de Madame Discamp se voilèrent d'humilité une seconde. « Je ne vous en veux plus d'être venu, » dit-elle enfin, et fouillant dans un coffret de bois dur. « Je voudrais que vous emportiez un souvenir de cette visite, que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de renouveler. Voici un mauvais petit dé d'argent, mais qui a été mon premier. Prenez-le, et si jamais il vous arrivait quelque chose de grave où je puisse vous servir, envoyez-le-moi avec votre adresse et quelqu'un passera chez vous de ma part. » L'émotion de Nan était décidément tout à fait évanouie. Elle songea même, en recevant le petit dé, à son ami sans bas l'œil, qui cherchait parfois au dessert celui de la conversation sous la table et faisait crier les petites femmes. On se sépara enfin avec les regards les plus touchants, et Madame Discamp sonna pour faire reconduire Nan. Comme celle-ci était déjà dans le vestibule, Jacques y déboucha par un autre côté, et de voir sa maîtresse chez sa mère, demeura quelques instants stupide d'étonnement. Mais déjà Nan avait passé, sans paraître le voir, majestueuse. « Je ne pouvais pourtant pas lui dire, » expliquait-elle plus tard. « Bonjour, je viens de prendre l'apéritif avec ta mère. » Chapitre 4. Que dirais-je de mademoiselle, votre fille? Elle est comme une treille d'if que vendange la main des amours, et accueillante avec cela, si vous saviez, ni nos mœurs ne l'épouvantent, ni notre langue ne la rebute jamais. Le proverbe nonobstant, mon ami Nan professait pour les amis de ses amis une haine opiniâtre et sournoise. N'ayant pas rencontré de me brouiller avec les miens, elle fut plus heureuse à les refroidir envers moi, donc elle y apporta sans doute de grands calculs, mais il faut prendre garde que la méchanceté de la femme s'accorde parfaitement avec sa frivolité. Certains de ces procédés valent d'être retenus. Tiens, murmurait-elle assez haut pour être entendue, au moment que le grand sens, respirant avec force, s'asseyait à votre table. C'est tout à fait comme vous me disiez hier soir. Et elle clignait de ses yeux métalliques. Sens souffrait, soufflait et ne revenait pas. Ou bien elle relatait devant le fils du conseiller N sur notre magistrature des opinions par moi émises en petit comité et qui sont bien loin d'une basse flagornerie. Elle parvint même jusqu'à froisser le placide Eliburu à force de lui rappeler, comme par inadvertance, les caravanes de son amie Henriette et que je l'avais connue longtemps avant lui, au sens de l'écriture. Satisfaite enfin d'en avoir fait presque mettre en quarantaine par ses gens, tout au moins quand elle était de la compagnie, elle voulut l'autre jour m'offrir une compensation et me demanda de l'accompagner, qui allait faire visite à sa mère. « Je l'aime beaucoup, me dit-elle, et elle ajouta après un peu de silence, « Elle m'a bien battue. » Nan était venue à pied, de clair vêtue, aussi printanière que la journée, qui était douce. À peine dans le bois, nous commençâmes de respirer les bourgeons qui pleurent, et je ne sais quelle langueur dans l'air. On eût dit qu'il était tiède par place. Plus loin, nous aperçûmes au-dessus des murs la gerbe bâle des lilas. Comme une fraise que le soleil macère dans un creux de muraille, le cœur de Nan parut s'attendrir. Elle devint sentimentale, plaignant la brièveté des heures et le temps irrévocable. « Oh, si aujourd'hui, ajouta-t-elle, pouvait toujours durer, qu'il fait si bon vivre. D'autant que cette voiture a des roues très bien caoutchoutées. « Vous ne savez, répond-elle, que pendant la blague, tout ce que j'admire, et moi-même, comme si j'étais un bibelot, une chose d'ameublement, et que vous ne croyez pas que j'ai... elle hésite un peu, que j'ai une âme. Mais si... Seulement, il y a les petits jeunes pour s'occuper de ça. Je ne puis pas faire tout le ménage. Et puis, je ne vous ai jamais traité en bibelot, Nan. Vous êtes bien plutôt pour moi comme un fruit d'or et de sang, et qui n'est pas encore tout à fait mûr. Vous êtes comme du vin grec dans un verre de bohème, tout rouge, au moment délicieux qu'on l'approche de ses lèvres. Après qu'on y a bu le cristal, on demeure longtemps parfumé. Et vous êtes encore comme l'idole qu'on tailla dans une pierre éclatante, précieuse, dure, comme l'idole sans souvenir et sans espérance. Mon pathos n'a pas désarmé Nan. Elle darde sur moi des yeux remplis de défis, et les coins de sa bouche puérile sont tirés en bas. Drôle, qui eut une âme là-dedans? La mère de Nan est dans son petit jardin, qui arrose avec dévotion un carré de terre compacte et bombée, où il ne paraît avoir poussé jusqu'ici que quelques pierres. Après deux gros baisers sur les joues de Nan et une révérence pour moi, « Voyez-vous, nous dit-elle, ce sont des salades. Ah oui, des salades. Dès qu'elles auront poussé, les loges viendront et mangeront tout. « Faudrait passer la nuit à côté avec une lanterne. »« Tu feras pas ça. Oh, je suis trop vieille, vois-tu. Ah, si ton pauvre père vivait encore, lui qui les aimait tant. » Cet amour d'un mort pour les salades me suggère des plaisanteries auxquelles il vaut mieux ne pas donner jour. Je préfère parler de l'arbre malingre où je m'appuie et qui est le géant du jardin. « Oh, vous avez là, madame, un beau prunier. Oui, il pousse, mais je crois que c'est plutôt un pommier. »« Comment t'es pas plus fixé que ça ?»« Ben, je vais te dire, dès qu'il vient quelque chose, les moineaux aussi, adieu. »« Oh, il faudrait peut-être, dis-je, se tenir à côté toute la nuit, avec une lanterne. » Cependant, la vieille dame nous guide vers la maison. Elle a un peu l'air d'une bonbonne, la vieille dame, et roule en marchant. Mais l'œil est vif encore, la lèvre rouge, et elle ressemble à sa fille d'une façon terrible. Ainsi serez-vous un jour, Nan, mamie, grosse, gémissante, dans un très petit jardin, armée d'un arrosoir vert. Et votre fille, si vous en êtes une survenue, ira vous faire visite avec des messieurs. Le salon est reluisant. Des ronds d'étoffe sont devant les sièges. Il y a deux tableaux de première communion pendus à la muraille. Et la pendule, sous un globe, fait socle à un de ces Grecs illustres dont l'anonymat de bronze ou de zinc reste avec les menhirs un des plus sombres cols qui s'oppose encore à l'érudition contemporaine. « Maman, donne-nous donc un peu de cognac du baron, » dit Nan. « Ah, tu t'en rappelles !» Et un instant après, elle nous verse, hors d'un petit flacon à fleurs, une chose, couleur d'ambre, très bonne, d'avant le phylloxéra, certainement. Et moi, que la mémoire de ce baron imprévu avait presque importuné d'abord, moi qui l'avais situé tout de suite dans la haute banque et le culte mosaïque, mosaïque, cet homme généreux dut être de race ancienne et catholique, digne de cantonner une croix de gueule de 12 oiseaux, couleur du temps, et d'un cœur échauffé par le noble jus de Saint-Onge, je lui fais d'intérieures excuses. Nan, qui a une chambre ici, y est montée chercher je ne sais quoi. Nous restons seuls, madame mère et moi, et je regarde les tableaux de première communion. Celui-ci, au nom d'Anaïs Garbu, souvenir précieux, si vous êtes fidèle, doit être celui de mon ami Anne. L'autre, me dit-on, est celui de Clotilde, mon autre fille, l'aînée. Ah, déjà c'est gâté celle-là, et croyez-vous que je le regrette bien? Est-ce qu'elle vous donnerait de l'ennui? Pas précisément, mais elle est restée gnolle comme tout. La voilà depuis 5 ans mariée à un contremaître, avec 4 enfants et 2004 par an. La misère, quoi, oh. Si j'avais à compter que sur ceux-là. Vous avez eu plus de satisfaction avec la cadette. Vous savez, elle est bonne pour moi. Elle est reconnaissante de ce que j'ai fait autrefois avec si peu de moyens pour l'élever. Et si vous saviez ce que ça coûte, les filles, ah, qu'il dites-vous. Enfin, comme me disait le vicaire de Saint-Martial, c'est ma paroisse. Tout le monde ne peut pas suivre la même voie. Mais ce qui me crispe, c'est les airs que se donnent les autres avec Anaïs. Sa sœur ne vient d'avoir qu'en cachette de son mari, avec sa queue. Et oui, quand il en parle, c'est toujours un tas d'aria et des airs de mépris bien ridicules. Oh, je vous assure que c'est pas lui qui en boit et du cognac du baron, quoi qu'il aime le schnick. Vraiment, oh, il ne sait pas ce qu'il refuse. Moi, je m'en verse un autre verre. Et le soir, peu à peu, envahit la pièce. Déjà, je ne distingue plus, sous le globe, Xénophon, qui est peut-être Aristarque ou Thalès de Milet. Enfin, j'entends dans le silence le pas d'un âne sur l'escalier. Au moins, madame, dis-je, elle ne fera rien qui puisse payer l'excellente éducation que vous lui avez donnée, et si complète. Quoique, sur quelques points, elle l'a peut-être parachevée elle-même. La porte s'ouvre et Nan peut entendre la réponse. « Moi, monsieur, j'ai cherché surtout à en faire une bonne chrétienne. » Avec de la religion, on peut se tirer de peine partout. Chapitre 5. L'après-midi esthétique. Il y a un je ne sais quoi insensiblement qui nous entraîne à quelque étude où sans doute nous étions destinés. Ne demandez point ce qui a fait de M. de M. un océanographe, de M. F. un politicien, ou porté M. H. à l'Académie France. C'est un je ne sais quoi, vous dis-je. courtisane de qualité que les grâces trois fois les corps, ô nane, quel démon vous a mis en tête le tourment de l'art? Auriez-vous fait rencontre dans une brasserie d'un peintre, d'un esthète, d'un critique peut-être, disons le mot? Car c'est dans les brasseries, vous le savez, nane, que se rencontre l'aristocratie de la pensée, comme dans les bars, celle de la naissance. Et ces messieurs auraient-ils noué, parti, d'épaissir à leur jargon ce peu de cervelle qui est la vôtre, qu'on s'imagine mousseuse et candide, pareil à ce qui peut tenir de crème fouettée sur la langue rose d'un chat? Ils vous ont parlé de Nietzsche, j'en suis sûr, de taux de distance de Gauguin. Et ils ont dit avec mépris à propos des choses qu'ils n'aimaient pas, ce n'est pas de l'art, c'est de la littérature. Et laissez-le donc tranquille, l'art, afin qu'il vous le rende. Si le caprice vous vient de contempler ces belles choses, n'avez-vous pas assez de vous mirer dans votre miroir, votre beau miroir Louis XVI, dont le cadre doré au mat figure une sensible bergère qui répand des pleurs auprès d'un nid renversé? Et sur mon âme, ce meuble est épris de vous. Pareil à la brune délicate qu'un soir d'août suspend sur les eaux, voyez cette buée qui le voile, tant il s'émeut dès que vous surgissez devant lui, paré de vos seuls colliers, aussi nue et moins rigoureuse qu'une vérité mathématique. Mais vous, nane, vous ne l'aimez point. C'est pourquoi, sans pudeur, vous souffrez qu'il vous épie jusque dans votre chair la plus secrète, avec vos genoux un peu rapprochés, vos coudes de corail pâle, une gorge sans escarpement, si irrégulière, pour tout dire, en vos charmes, qui ne sont peut-être qu'une exquise difformité. Déjà, vous voici enseveli sous le linge, armé d'un corset de jartelles, de bottines très hautes, comme en portèrent sous leur crinoline. Ah oui, dites-vous, Constantin Guy, les dames de Compiègne autrefois. Et de nouveau, vous êtes charmante. Restez-le un moment ainsi, voulez-vous? Non, vous préférez aller au Louvre, voir les nouveaux tableaux dont vous ont parlé ces gens. Et il est de fait que, dans la rue et en plein XXe siècle, comme parlent les gazettes, votre passage ainsi troussé soulèverait la critique aussi bien que celui de Vénus faisait naître sous ses pâles les violettes couleurs de nuit et le sang des anémones. Habillez-vous donc. Une heure à peine a passé que déjà vous êtes en toilette décente, je veux dire qu'on ne voit plus la couleur de votre peau. À part cela, la jupe trahit et souligne chez vous une croupe de danseuse andalouse. Outre qu'elle plaque si exactement au tablier qu'on connaît du premier coup d'œil le module de vos nobles jambes, cette double colonne d'un marbre veiné d'azur, dressée par presque Dieu au soleil et au seuil de la plus voluptueuse Atlantide, pourtant de ventre vous n'avez plus du tout. Où est-ce que vous avez bien pu le mettre? Malgré soi, on cherche sous les meubles. Ah non, il n'y est pas. Maintenant, chapeautez-vous, madame. Mon Dieu, comme il est plat, votre galurin. On dirait une assiette à dessert, ou un paradoxe de M. Bjornstern Bjornson. Tout autour, il y a un rang de pensée, comme si on avait voulu marquer au peuple, par ce symbolisme ingénieux, que c'est un chapeau d'intellectuel. Mais au fond, oh, c'est si fatigant de penser. Et quand vous vous mettez à chercher des idées originales au fond de votre mentalité, tel un enfant qui pêche à la ligne dans un boc à la poisson rouge, cela vous donne un air triste, triste. Oui, tel que vous êtes alors, je m'imagine la fille d'un mercier protestant qui aurait engrossé sa bonne jadis un jour de pluie. D'ailleurs, j'aimais mieux ce lampion vert et or qui couronnait l'an dernier les ondes de votre chevelure. C'est très joli, les lampions. Et toutefois, n'oubliez pas votre toilette ni vos gants. Évitez même que ceci ne soit de la même main, ou du moins de ne vous en apercevoir qu'en voiture, à seule fin de me les envoyer alors changer en disant « Surtout ne soyez pas longs !» Enfin, mettez-vous autour du cou ce serpent floconneux qui vous donne l'air d'avoir passé la tête à travers un édredon. Et hop! Après tout, vous avez raison, pourquoi n'irait-on pas au Louvre? Surtout par les jours froids, comme il en fait un aujourd'hui. Les salles y sont spacieuses, chauffées, et puis il y a les gens qu'on y rencontre. De belles londoniennes, d'abord, en étoffe bourrue, avec des gants amples, des souliers ronds, flanquées de leurs tristes époux, et des Allemandes, vêtues comme les dames de Hildburghausen, sans omettre ces singuliers maris à lunettes, coiffés de verre qu'elles ont. Quelques Parisiens aussi, rares comme la véritable amitié. Pour ne rien dire de ces provinciaux ahuris dont parla jadis M. l'émir Bourges, et qui cherchent en vain, à travers les salles du Louvre, les magasins du même nom. Mais ce qu'il n'y a jamais à moi de l'amener, comme je fais aujourd'hui, c'est une parigote un peu pelucheuse, caressant à l'œil et qui glisse sans bruit sur les parquets ou les vastes dalles. Et voici toute la tribu des pauvres diables, ouvriers inoccupés, éclopés, échappés de l'hôpital ou de la prison, mendigots sans poste, assemblés, causant à voix lente autour des bouches de chaleur, ou bien assis en brochette comme des oiseaux des îles, sur ces banquettes rouges dont il semble que la peluche soit teinte de sang. Ne feignez point d'être surprise qu'ils vous guettent avec ces avides yeux. Ce n'est pas toujours de manger, nanne, que les hommes ont faim. Mais puisque nous sommes ici pour les nouveaux tableaux, allons les voir. Dans le salon carré, tenez ce grand paysage de Poussin. On l'a acheté l'autre jour chez Dufayel. Vous vous plaignez qu'on ne distingue rien, qu'il fait trop sombre, mais c'est toujours comme ça, au salon carré. Les tableaux n'y sont pas pour être vus. Ils se reposent, et pour un peu, on leur mettrait des housses. Et ça, c'est les noces de Cana, en Galilée. Beaucoup trop pour vous, n'est-ce pas? Et vous préféreriez une bonbonnière, comme celle qu'acheta Willy au miniaturiste. Bon Dieu, l'un et l'autre sont à peu près incomparables, ne les comparons pas. Mais déjà la grande galerie vous effraie, et vous faites demi-tour. À vrai dire, ces milliers de figures, à droite pendues et à gauche, sur un demi-kilomètre de long, et qui vous regardent sans vous voir, ne laissent pas d'intimider un peu. On a le sentiment qu'on va passer par les baguettes. Vous devriez pourtant aller dire un petit bonjour là-bas à cette mistress Angerstein en mousseline blanche que Penny Lawrence auprès de son rouge mari. Ce n'est pas au moins que j'aime la peinture anglaise, mais cette dame, par ses regards sinueux, par ses mains pleines de promesses, et ce souvenir équivoque qui se joue de la tendresse à la cruauté, me rappelle, avec moins d'assiette, la charmante mademoiselle Auguste de Crébillon le fils. Ah, trop heureuse époque, où jusqu'au sein des maisons d'éducation... Ici, je m'aperçus que Nan, excédée sans doute par mes discours, avait pris la fuite. Elle fendit, sans en paraître étonnée, tout cet or de soleil couchant qui poudroie à travers la galerie d'Apollon. Je ne la rattrapai qu'au milieu des vases grecs, car elle courait aussi vite qu'une nuée d'orage. « Hélas, lui dis-je, et moi qui voulais vous faire voir ce printemps de billets qui sent l'herbe, la pluie et le pommier. Il y a là un horizon gris ardoise avec trois oiseaux blancs qui fait songer à vos yeux quand vous êtes en colère. Ils sont si grands alors qu'on y cherche malgré soi des nuages, la mouette qui crie et l'ivresse salée du large. » Mais Nan, ayant répondu qu'elle en avait sa claque de mes boniments et aussi de tous ces bibelots, nous tombâmes d'accord de quitter ce musée national et sortîmes par le musée égyptien Ou c'est en vain que je tâchais de l'intéresser à deux sarcophages de bois peint, dont de son Altesse sérénissime le Khédive. Et tandis qu'elle s'obstinait à les traiter de vieilles baignoires, la salle spacieuse et grise où méditent tant de dieux de granit fut envahie soudain par plusieurs petites anglaises, danseuses de music-hall ou de cirque, qui chantaient en chœur un air de cakewalk. Et tant de sans-gêne me parut pas scandaliser ces beaux sphinx jumeaux, noirs comme une nuit sans étoiles, qui portent une fleur de lys en ferronnière. Aussi bien sont-ils en pierre, comme vous-même, mon âne, deux fois dur à toucher. »